Vous êtes sur RTL. Oui. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 11 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin, va-t-on vers un nouveau tour de vis sanitaire? Un nouveau conseil de défense se tiendra demain matin et Jean Castex prendra la parole en fin d'après-midi. Le pire n'est jamais certain, mais ce qui semble acquis après 15 jours de reconfinement, c'est que la réouverture des petits commerces, ce n'est pas pour tout de suite. Sauf que cette fois, la résistance s'organise. Une pétition pour la réouverture des librairies a déjà recueilli plus de 200 000 signatures et parmi les signataires, Alexandre Jardin qui en appelle au président de la République.
Emmanuel Macron doit se conduire en grand président. Et dimanche dernier, j'étais dans une queue, dans un monoprix. Je regardais les gens qui voyaient l'endroit où il y a des livres normalement, qui étaient bâchés. Les bouquins étaient mis sous plastique. C'est une image de fou. Le monde du livre, en gros, ne veut pas crever. Emmanuel Macron a vraiment le choix entre être celui qui va éteindre la lumière de la culture, ou être celui qui va défendre la culture française.
Alexandre Jardin avec Valentin Boissé pour RTL. Pour certains commerces, c'est trop tard, le mal est fait. Après Camailleux, Célio, Alinéa, la liste est longue. Hier, c'est le groupe Printemps qui a annoncé la fermeture de 7 magasins en France, 4 Printemps et 3 Citadium à Paris, Metz, Strasbourg et Le Havre. Pour les salariés, c'est la stupeur et la consternation, comme l'explique Georges Dasneves, le délégué UNSA du Printemps.
À aucun moment, on ne pensait qu'on nous présenterait un plan de cette taille et de cette ampleur avec un tel impact. Et surtout, à ce moment-là, précisément. Je trouve que la gestion de la crise a été très très mal effectué, on est tous hébétés. Donc voilà, nous annoncer une telle nouvelle dans des conditions aussi chaotiques, on est tous, je me répète, sans voix.
Propos recueillis par Arnaud Touche. Notez qu'hier, après 5 mois d'enquête préliminaire, 4 informations judiciaires ont été ouvertes sur la gestion de la crise du Covid en France. Informations contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et homicides et blessures involontaires.
Elles en ont assez de respirer un air pollué. 9 familles de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, ont porté plainte contre l'État.
Dans cette vallée, les taux de particules fines ou d'oxyde d'azote dépassent régulièrement les valeurs limites. Le Conseil d'État et la Cour européenne de justice ont déjà reconnu une faute de l'État. Les habitants espèrent maintenant une reconnaissance de leur préjudice. Claire Cousinet était présente hier au tribunal de Grenoble au nom de son fils Orient qui subit la pollution depuis son plus jeune âge.
Mon fils a posé une question au juge, hein. Il me l'a transmise. Il m'a demandé mais à quoi ça sert de nous faire grandir dans un monde qui est déjà tout abîmé. Il a bientôt 9 ans, donc ses poumons se sont pas très bien développés. Il vit avec un asthme allé fort, est en difficulté pour marcher en montagne, il a du mal à respirer. Au pied du Mont Blanc, il est touché par de la pollution au niveau de la qualité de l'air. Vous vous rendez compte? C'est quand même dramatique de devoir passer devant un tribunal pour faire reconnaître que chaque enfant en France a besoin de respirer, normalement, pour vivre.
Claire au micro RTL de Serge Pueyot. C'est une information RTL. La CLCV, Association de consommateurs, va lancer une action de groupe contre Volkswagen dans le cadre du Dieselgate, le scandale de dissimulation de la pollution. Plus de 900 000 véhicules sont concernés en France. Les cérémonies du 11 novembre sous le signe du Covid. Vers 11h ce matin, Emmanuel Macron ira ranimer la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, mais en petit comité, pas plus de 30 personnes. Et puis en fin d'après-midi, il y aura l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, auteur de Ceux de 14 et grand chroniqueur de la guerre des tranchées. En ce 11 novembre, pour la première fois, Marcel Pinte sera mis à l'honneur. Il s'est illustré, lui, pendant la Seconde Guerre. À l'époque, on l'appelait Quinquin, il n'avait que 6 ans et il est le plus jeune résistant de France tué accidentellement en août 44. Depuis vendredi, son nom est inscrit sur le monument aux morts d'Aix, en Haute-Vienne. Une fierté pour son neveu Marc Pinte.
C'est le plus beau des hommages. Une fois que votre nom est gravé dans le marbre avec des lettres en or, parce que le petit Marcel Pinte est resté dans l'ombre trop de temps, à mon sens. Réhabiliter un maquisard de 30 ou 35 ans parce qu'on l'a oublié, c'est pas tout à fait pareil que réhabiliter un gamin de 6 ans et 4 mois qui s'est fait tuer lors d'un parachutage d'armes. Être maquisard à 6 ans et 4 mois, c'est pas comme...
Marc Pinte, joint pour RTL par Morad Djabari.
7h34 aux États-Unis, Joe Biden s'installe peu à peu dans la fonction de président, même si Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite.
Le démocrate a reçu hier les félicitations d'Angela Merkel, de Boris Johnson, et il a eu un premier échange téléphonique avec Emmanuel Macron.
I wanted really to congratulate you and congratulate Kamala Harris for
Voilà, des félicitations pour Joe Biden, pour Kamala Harris. Le futur président américain a promis de redynamiser les relations avec l'OTAN et l'Union européenne. Joe Biden qui affirme par ailleurs qu'il a hâte de s'entretenir avec Donald Trump. Il estime que son refus de reconnaître sa défaite est une source d'embarras, mais que cela n'aura pas beaucoup d'impact sur la transition du pouvoir. Pendant ce temps, le secrétaire d'État Mike Pompeo évoque lui aussi une transition en douceur, mais une transition vers une seconde administration Trump. Le foot, les Bleus affrontent la Finlande ce soir en match amical au Stade de France. Didier Deschamps devra se passer de 5 ou 6 cadors, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso ou Lucas Hernandez. Mais il pourra compter sur les petits nouveaux, notamment Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui fera ses premiers pas ce soir chez les Bleus. Coup d'envoi à 21h, soirée foot dès 20h50 sur M6 et sur RTL. Sur le Vendée Globe, premier grain pour les skippers qui ont dû affronter cette nuit des creux de 5 mètres au large de l'Espagne. Avant la tempête, c'est Maxime Sorel qui faisait la course en tête. On termine avec ce palmarès inédit, tiens, le palmarès des toutous et des matous. Pour la première fois, le fichier national d'identification des animaux domestiques carnivores, s'il vous plaît. Oui. Et bien pour la première fois, il a dévoilé ses chiffres. Résultat, Laura Maucci, c'est très net, il y a de plus en plus de chats.
Ah oui, les chats en levant en poupe en ce moment, sur 3 ans, leur population n'a fait qu'augmenter. On en compte 6 millions qui vivent au chaud chez nous. Ils rattrapent peu à peu le nombre de chiens qui lui dépasse les 9 millions, mais qui perd du terrain. D'ailleurs, ce ne sont que des petits chiens qui constituent le podium. Le Yorkshire est en tête, suivi du Jack Russell et du Chihuahua. Il faut attendre la 4e place pour voir un chien plus conséquent avec le Labrador. Et c'est en Île-de-France qu'il y a le plus d'animaux recensés. Alors, je me doute que vous vous posez la question fatidique des prénoms les plus donnés. Eh bien, pour les chats, il s'agit de Tigrou, Minette et Simba. Pour les chiens, Maya et Lucky. Et pour les furets, car oui, le fichier recense aussi le nombre de furets. Eh bien, souvent, ils s'appellent Chippy ou Fufu.
Merci Laura Maucci. J'aime beaucoup Fufu, le furet.
Fufu, ça vous plaît, oui.
Vous avez des chats, vous, Yves?
Moi, j'ai 3 chats.
Qui s'appellent?
Ah non, je ne donne
on
pas
peut
leur
pas, on ne peut pas
c'est la vie.
L'anonymat
c'est la vie privée,
du chat, c'est précieux.
Pas. Oui, puis je risquerais d'être un peu ridicule. Alors, c'était le tout un fois avec Isabelle Choquet. On vous retrouve à 8h40 pour la face cachée de la U.